Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Bonjour, c'est l'émission nectar.ge.ch, une émission qui a pour but de vanter les vins genevois, mais sans chauvinisme. Nous les vantons simplement parce que la qualité est là, de plus en plus brillante. C'est Aristide qui vous parle, son invité aujourd'hui est Jean-Charles Crouzat, qui a rendu fameux le domaine des Trois Étoiles, qui est maintenant retiré. Je vous dois peut-être une petite explication sur le personnage de Aristide, puisque c'est un pseudo. Avant, je faisais des émissions ici sous le pseudonyme de Ernesto. Et puis Ernesto s'est mué en Aristide. Aristide était choisi pour sa dimension culturelle, pour sa dimension de sagesse. C'est un prénom à consonance grecque. Et comme vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il y a eu Aristide le Juste, homme d'État athénien, puis Aristide de Milet, écrivain, auteur de contes, Aristide de Thèbes, qui fut un peintre, Aristide Quintilien, musicologue, et Aristide d'Athènes, qui était alors là, je m'en réclame, un saint philosophe athée devenu apologiste chrétien. Voilà, donc vous savez tout sur Aristide et sa glorieuse existence. Donc, j'aimerais redire que notre émission se veut culturelle et comme nous donnons chaque fois des citations, j'en donne d'entrée une, elle est de Brillat Savarin, qui dit « Ceux qui s'indigent, c'est un mot ancien, hein, indigestion, c'est-à-dire ceux qui bouffent trop ou s'enivrent, ne savent ni boire ni manger ». Ceci pour bien redire que notre émission n'est pas une émission de poivrée, de poivreau, c'est une émission culturelle, c'est une émission du bien-vivre, c'est une émission pleine de distinctions. Voilà, alors Jean-Charles Crouzat nous fait l'honneur d'être présent et peut-être voudra-t-il tout d'abord nous donner quelques indications sur l'histoire du domaine des Trois Étoiles.
Oui, je vous remercie, bien sûr. Le domaine des Trois Étoiles, c'est un domaine qui est situé sur le coteau de Pessy, en plein cœur du vignoble du Mondement, et qui est là depuis, j'imagine, assez longtemps, parce que c'est une terre à vocation viticole sur la Molasse. Voilà, en gros, c'est un domaine d'une dizaine d'hectares, qu'on plantait en blanc et en rouge, bien sûr, et puis où on pratique la vinification, la mise en bouteille et la commercialisation. Voilà, tout sur place.
Voilà, je me permets de dire que Pessy, si vous ne connaissez pas ce village, est un endroit merveilleux parce que c'est un des villages, à mon sens, les mieux conservés du canton. Et il n'y a aucune construction qui parasite le centre. C'est une rue centrale avec une unité architecturale qui est absolument magnifique. Donc c'est un lieu de rêve. C'est tout près du signal de Chouilly et on y accède depuis la ville en un quart d'heure. Donc, le domaine des Trois Étoiles est un domaine très ancien. Nous parlions chemin faisant de Gondebeau.
Ah, alors Gondebeau, c'est le nom d'un vin qui a été donné dans les années 50, au début des années 50, pour le premier assemblage de Gamay et de Pinot Noir sur le canton de Genève. Et ce nom, il est repris des lois Gombette. Enfin, il est repris. C'était un roi Gondebeau qui était au 4e ou 5e siècle, installé à Genève, un roi burgonde, et qui avait instauré ce qu'on appelait justement les lois Gombette, qui punissaient de mort tout chapardeur de raisin à l'époque.
Voilà, voilà. Donc je ne devrais plus être de ce monde.
Oui, il n'y aurait pas beaucoup de monde.
Voilà. En somme, ce vin, c'est de la Dôle.
Voilà, si vous voulez, c'est de la Dôle, mais genevoise.
Voilà. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est curieux. Qu'est-ce que vous pensez de ces appellations? Autrefois, pour le blanc genevois, le Chasselas, on disait du Perlan. Et puis pour le blanc vaudois, du Dorin. Et puis pour le blanc valaisan, le Chasselas, toujours, du Fendant. Ça correspond à quelque chose? Est-ce que c'est toujours les mêmes vins? Est-ce qu'on arrive à les différencier quand on les déguste?
Oui, naturellement, on peut les différencier, même des fendants entre eux, des dorés entre eux ou des perlants entre eux. On peut tout différencier, bien sûr. Mais ce qui est resté, non pas dans la mémoire, mais dans la pratique, c'est le mot fendant. Le mot dorin a été abandonné, le mot perlant a été mal vu, mal perçu, si bien qu'il reste le mot fendant, oui, effectivement.
Voilà, ça cela pour nous. Moi, je trouve, je ne sais pas si tu es de cet avis, que les chasselas de Romandie, donc Vaud, Valais, Genève, Neuchâtel, sont les meilleurs du monde, d'accord ?
Et, bon, ce sont les meilleurs du monde parce que c'est pour ainsi dire que dans cette région-là qu'il est cultivé, le chasselas. Alors, forcément, c'est un peu plus facile d'être le meilleur quand on est le seul.
Ben, il y en a un peu au bord de la Loire, un peu en Alsace, oui, mais on le balance, je ne peux pas dire autrement, dans le Dölzwicker. Ouais. Donc, c'est moins glorieux que par chez nous.
Pour l'Alsace, oui, dans le Dölzwicker. Et pour le Pouilly-sur-Loire, on fait encore du chasselas, voilà. Mais très, très peu.
C'est à ça que je fais allusion.
Par contre, il y a un village qui s'appelle Chasselas et il est en Bourgogne, sauf erreur.
Ben, il est près de Mâcon.
Voilà.
Il est près de Mâcon. Quand on se balade vers la roche de Solutré, à sa grande surprise, on voit tout d'un coup un écriteau Chasselas.
Voilà.
Voilà. Et précisément, à cet endroit, ils ne font pas du Chasselas, mais bien du Chardonnay.
Chardonnay ou Aligoté, si on est dans la Basse-Bourgogne. Ouais.
Voilà. Alors, une, deux questions quand même sur le domaine des trois étoiles. J'aimerais que tu parles du Merlot.
Ah! Alors, le Merlot, c'est une histoire, parce que dans les années, on revient aux années 50, quand la reconversion du vignoble genevois en rouge a eu lieu, parce qu'il y avait pas mal d'hybrides à l'époque, et là, on s'est mis à faire des cépages nobles, à savoir essentiellement du Gamay, qui correspondait à la latitude du Beaujolais. On imaginait qu'on aurait à peu près le climat idoine. Eh bien, à ce moment-là, il y a eu une forte demande de Gamay. Et les pépiniéristes suisses n'avaient pas les greffons. Ils ne pouvaient pas suivre la demande. On s'est adressé aux pépiniéristes voisins français. Et là aussi, ils ont eu de la difficulté à fournir la demande genevoise en Gamay. Si bien qu'à un moment donné, mon père avait commandé des plantes Gamay en Savoie, et à Chindrieux plus exactement. Et là, ils nous avaient livré ce qu'on avait demandé, plus un solde. Ils avaient dit à mon père, voilà, on n'a pas assez de Gamay, on te donne du rouge du pays. Bon, rouge du pays, très bien. Alors on le plante, on le sépare, on le met dans une ligne à côté. Et on le voit croître, on le voit fructifier. Et on se rend compte que ça n'a rien à voir avec du Gamay. Alors bon, on se demande ce que c'est. À ce moment-là, on a donné montré le raisin au laboratoire cantonal, qui était à l'époque dirigé par Dr Desus à Genève, et il est venu voir, et il a dit, on ne sait pas trop ce que c'est, personne ne savait exactement ce que c'était. Il a dit, on va le vinifier. Alors, ils ont pris un échantillon, ils ont fait ce qu'on appelle une micro-vinification, et bon, ça a donné un vin quand même un peu vert, un peu géranium, lierre, comme ça. La maturité n'était peut-être pas assez avancée, et ils ont dit, bon, on va l'appeler Pinot Cruza. Voilà, tout simplement.
Voilà, entrer dans l'histoire.
Voilà, sauf que, peu après, Jean Nicolier, qui enseignait à l'école de viticulture et agriculture de Châteauneuf, qui était un copain de mon père, passe à la maison, mon père lui montre le cépage, il dit, ouh, alors là, on n'a rien à voir avec du Pinot, moi je verrais plutôt un cépage du Sud-Ouest, comme un Merlot. Bon, alors il nous a conseillé de préparer une pampre, avec une grappe de raisin dessus, au moment de la récolte, et de l'envoyer à la station de la Grande Ferrade à Bordeaux, qui nous a répondu, laconiquement, mais c'est du Merlot, comme si eux nous avaient envoyé du chasselas pour nous demander ce que c'était.
Voilà.
Voilà, c'est arrivé comme ça. C'est comme ça qu'on a su que c'était du Merlot.
Et il a fallu aller jusqu'à Bordeaux.
Jusqu'à Bordeaux, ouais.
Voilà, personne chez nous. Mais est-ce qu'il n'y a pas des procédés pour identifier maintenant chaque cépage de manière génétique extrêmement précise ?
Ah, ça, c'est
le code génétique.
Technologie moderne, l'ADN des cépages, oui.
Maintenant, on pourrait.
Oui, oui, on peut.
On ne serait plus obligé d'aller jusqu'à Bordeaux.
Non, non.
Voilà.
Bien que ce soit agréable d'aller à Bordeaux.
Voilà. Et alors, maintenant, le Merlot s'est imposé. Vous avez été largement copié.
Alors, oui, copié, imité. Même, des fois, il y en a eu de meilleurs que des nôtres, il faut l'avouer. Mais sauf qu'on a dû maîtriser la vinification parce que ça ne se vinifie pas comme un Gamay ni comme un Pinot. Donc ça, il a fallu maîtriser. Et puis, on a eu la chance, pour nous, pour ce cépage en tout cas, avec le réchauffement climatique. Parce que c'est un cépage de deuxième époque. Donc le Chassin, un cépage de première époque. Et ça, c'est un cépage de deuxième époque. Donc il mûrit plus tardivement. Avec le réchauffement, on a pu obtenir des maturités plus précoces et ainsi avoir un cépage qui est plus facile à vinifier et qui donne bien meilleure qualité.
Voilà, tu as répondu par avance à la question que je voulais te poser, parce que le changement climatique permet d'introduire des cépages qui autrefois ne seraient pas parvenus à maturité. Est-ce que le Merlot passe systématiquement dans le fût de chêne ?
Non, ça c'est le choix du vinificateur.
D'accord, parce que c'est un cépage robuste quand même.
C'est un cépage robuste, mais encore une fois, si vous voulez le passer dans du chêne, dans du bois, il faut le vinifier un peu différemment que si vous le travaillez dans une cuve métallique ou inox, quoi.
Ne bougez pas, nous nous retrouvons après une courte pause.
Radio Cité Genève.
Dans le tube.
Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Alors on en vient maintenant au thème du jour. J'ai invité Jean-Charles Crouzat qui a une longue pratique, puisque en somme il a fait toute une carrière viticole, pour évoquer les changements dans la culture de la vigne d'une part et puis dans les modes de vinification d'autre part. Alors en quoi le vignoble genevois s'est-il techniquement modernisé ?
Ah ! C'est une bonne question parce que le vignoble genevois, il a été acculé, n'est-ce pas ? Il ne pouvait que s'améliorer. C'était impossible, il s'était fichu autrement. Il était perdu. Donc il était dos au mur. Il a fallu réagir. Et grâce aux jeunes, aux écoles, on a pu rectifier le tir, tant à la vigne qu'à la cave, parce qu'il faut savoir que c'est deux choses parallèles.
Quand tu as commencé, est-ce qu'il y avait déjà Changin ?
Non, c'était Lausanne. Moi, j'ai fait Lausanne, Montagibert.
D'accord.
C'est l'hôpital actuellement, la maternité.
D'accord. Bon, ben, c'est voisin, en somme. Il n'y a pas une grosse différence.
C'est le début.
Voilà. Mais maintenant, je pense que Changin donne des bases qui permettent à la qualité de s'épanouir comme jamais.
Oui, ben, c'est le rôle d'une école. En plus, une école professionnelle reconnue, qui a un très bon enseignement et qui est au top, quoi. Il faut avouer que c'est à la pointe.
C'est un passage obligé.
Moi, je prétends que oui.
Il y a des gens qui disent qu'ils sont autodidactes.
Non, mais il y en a dans tous les métiers, des autodidactes.
Oui, mais est-ce qu'ils font du bon vin, les autodidactes ?
Oui, bien sûr qu'ils vont faire du bon vin, mais ils auront plus d'empirisme dans leur approche.
D'accord.
Donc, c'est un peu plus risqué.
D'accord. Alors, les changements qui sont intervenus, en quoi le vignoble 2018 est-il différent de celui, par exemple, 1970 ?
Bon, alors, à la vigne, d'abord.
À la vigne.
Il y a eu un encépagement qui a évolué.
D'accord.
Et on n'a pas eu de carcan, on n'a pas été embêté par les autorités. On pouvait mettre à peu près les variétés qu'on voulait. On pouvait un peu tout tester en tant que producteur. Alors ça, c'était intéressant pour un producteur, vous comprenez. Et le consommateur en a bénéficié également.
Est-ce qu'on peut encore tout tester ou bien est-ce qu'il y a des cépages qui sont définis par la loi ?
Je ne sais pas. Je connais mal la législation. Mais je sais que chaque fois que la loi intervient dans un secteur d'activité, vous êtes sûr que c'est foutu.
Voilà. Pourtant, par exemple, en Bourgogne, c'est le prédécesseur Charles Le Téméraire qui, par décret, a dit « plus de Gamay, interdit, Pinot Noir, point barre ».
Voilà.
Voilà. Donc, le législateur...
A protégé le Pinot Noir pour la Bourgogne.
Voilà. Ouais. Il est toujours en retard, le législateur, par rapport à ce qui réussit dans les faits.
C'est-à-dire, chaque fois qu'il prend de l'avance, il se trompe. Alors, il a meilleur temps d'être en retard, ça, c'est sûr.
Ou de se taire.
Oui, alors là, c'est la meilleure des solutions.
Voilà, alors donc, on a un encépagement extrêmement riche. Je me rappelle un vigneron qui disait, mais cette richesse, cette variété de cépages, c'est pas forcément un point fort, c'est peut-être une faiblesse. Qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, je pense que c'est difficile de répondre si c'est une force ou une faiblesse. Moi, je trouve que c'est une force, parce que ça donne un panel et des possibilités aux consommateurs de pouvoir déguster, de pouvoir boire, de pouvoir consommer toute cette variété. Je trouve que c'est un plus, moi.
Ouais, moi aussi, tu me rejoindras peut-être, mais je pense que vis-à-vis du consommateur, c'est un plus qui est décisif parce qu'on a des vins genevois qui ont une structure telle que ça peut tenir tête aux vins du Sud.
C'est différent, hein. Un vin du Sud, c'est des vins plus chauds, des vins plus chaleureux, plus riches, parfois plus lourds aussi, qui se boivent peut-être pas au même moment et avec les mêmes mets, si vous voulez. C'est pas tout à fait pareil. Maintenant, pour ce qui est des apéritifs, les blancs, on est encore les meilleurs, quoi.
Ouais.
Sans se vanter, un Chasselas, je regrette, un Chasselas, c'est le pastis suisse, quoi.
Ah ouais, c'est réglementaire.
Ah
si
oui,
on
n'y
coupe pas, disons que c'est réglementaire.
Non.
Le coup de Chasselas.
Ouais.
Alors, voilà, on a un encépagement maintenant qui compte à peu près 40 variétés différentes sur Genève, quelque chose comme ça.
Oui, si on prend toutes les variétés, il y en a peut-être une quarantaine, je ne sais pas, mais qui dominent et qui sont élaborées pour le négoce, pour le marché, qui ne sont pas confidentielles, il n'y en a pas 40.
Maintenant, donc, les changements dans la culture, par exemple.
Alors là, dans la viticulture aussi, on a changé les modes de culture. Auparavant, on travaillait le sol intégralement et on avait beaucoup de pertes de terre, vous voyez, quand
on labourait.
Oui, on labourait, on sarclait. Et là, avec les gros orages, la terre descendait. Il fallait toutes les années remonter la terre, remonter la terre. Et là, maintenant, on fait de l'enherbement permanent et on arrive avec les tondeuses à maintenir le sol entier, si vous voulez bien. Il ne bouge pas.
D'accord, mais est-ce que il n'y a pas un phénomène d'aération? Il me semble que des vignerons anciennement invoquaient l'aération.
Ouais. Oui, on le fait, on passe une lame, enfin, nous on l'a eu fait aussi, on passe une lame interligne pour soulever un peu, défaire un peu le sol, pour un sous-solage on appelle ça. D'accord. Ça, on le fait de temps en temps, ouais.
D'accord. Est-ce que, par exemple, maintenant, tous les vignerons genevois sont acquis à l'idée que, avec les produits désherbants, on empoisonne durablement le sol?
Les vignerons genevois ne sont pas acquis à l'empoisonnement par les désherbants. Ce sont les sociétés de consommateurs qui sont acquis à ceux qui n'y connaissent rien.
Voilà.
Voilà, eux sont acquis à l'écologie, qui est une bonne chose. Alors, je ne discute pas, hein. Mais sauf que c'est une transition difficile pour la production, mais elle y va.
Actuellement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de vignerons qui mettent des produits désherbants pour...
De moins en moins.
De moins en moins.
Puis ces produits vont être retirés. Sauf que vous savez comment ça fonctionne. Une fois qu'un produit est retiré, les maisons qui fabriquent ces produits, ils arrivent toujours à trouver un palliatif, à trouver un nouveau produit qui, lui, sera homologué. Pour combien de temps, on n'en sait rien. Mais ils sont doués, ça, je ne me fais pas trop de soucis.
Non, ils vont survivre. Il n'y aura pas besoin de voler à leur secours.
Non, les milliards de Monsanto, je n'ai pas peur.
Alors, maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la vinification?
Bon, la connaissance du produit, déjà. S'il n'y a plus d'empirisme, maintenant. Et puis, il n'y a, pour ainsi dire, plus de chimie. Ça n'existe plus. Tout est physique.
D'accord.
On travaille avec le chaud, le froid, des temps de macération, des forces de pressurage, tout a évolué.
Quand on dit que ce n'est plus chimique, est-ce que ça signifie qu'autrefois on mettait des produits suspects? Parce qu'il y a des gens suspicieux.
C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, il y avait dans des cuves avec de la ferraille, on avait ce qu'on appelait des casses ferriques. Je vous parle dans les deux guerres. Hein. Et pour traiter ces casses ferriques, on les traitait au ferrocyanure de potassium. Vous voyez, ferrocyanure de potassium, cyanure, ça, c'est pas très bon. Non, c'était sous contrôle du chimiste cantonal à l'époque, ou du chimiste fédéral, je ne sais plus. Mais moi, je n'étais pas né à ce moment-là. Mais pour vous dire qu'on travaille avec ça, aujourd'hui, on a des revêtements à l'intérieur des cuves, soit de l'inox, soit des revêtements synthétiques à deux composants, soit du bois, qui, eux, ne peuvent plus provoquer cette casse ferrique.
D'accord. Alors, conclusion catégorique. Dans les vins genevois, il n'y a aucune chimie.
Ça dépend ce qu'on entend par chimie. On travaille encore avec un réducteur.
Réducteur?
Oui, un antioxydant.
D'accord.
Vous savez, quand vous coupez une pomme en deux, au bout d'une demi-heure, une heure, elle vient toute brune. Voilà, elle s'oxyde.
Voilà.
Le vin, un vin, si vous le laissez sans réducteur, si vous voulez, si vous ne lui mettez pas un petit peu de soufre, il va devenir tout jaune, tout oxydé.
Voilà.
Et puis c'est un stade intermédiaire, le vin. Il faut savoir qu'au départ, c'est du jus de raisin. À l'arrivée, c'est de l'eau et du gaz carbonique. Entre deux, il y a le vin, il y a le vinaigre, il y a ce qu'on appelle la tourne, eau et gaz carbonique. Vous savez, c'est un stade intermédiaire. Alors il faut le maintenir, ce stade.
D'accord. Eh bien, merci pour toutes ces indications. Je crois que maintenant, on arrive à un moment d'une solennité particulière. C'est le moment où on va déguster un vin. Alors, cette rubrique de l'émission, ça s'appelle la chaussette. Je le redis parce que si vous n'avez pas un cache distingué, vous pouvez prendre simplement une chaussette. ce qui est nettement moins cher. Si vous allez à Barbès, vous trouvez des chaussettes Saint-Père pour 10 euros. Donc, vous ferez un effet extrêmement distingué si vous avez un repas avec des chandeliers, des invités de marque. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle la chaussette. Alors, nous allons ouvrir une bouteille dont on ne voit pas l'étiquette. Le but n'est pas de deviner de quel vin il s'agit, parce que à Genève, si on a à peu près 50 ou 60 vignerons indépendants et que chacun a 10 étiquettes différentes, ça fait pour le vignoble genevois environ 500 bouteilles différentes au minimum. Donc on ne trouvera jamais d'expert qui puisse désigner à coup sûr chaque vin dégusté. C'est totalement illusoire, c'est un jeu stupide. Donc notre invité va nous dire ce qu'il pense du vin, ce qui se passe dans sa bouche, quelles sont les qualités, défauts et caractéristiques qu'il aura perçues. Donc la chaussette après une petite pause musicale.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
C'était Ma Liberté de Serge Reggiani, un enregistrement choisi par notre invité Jean-Charles Crouza. Et maintenant, on passe à du très concret avec la chaussette. Donc, il s'agit maintenant de mettre en évidence chacune des phases de la dégustation. Parole à Jean-Charles.
Alors, tout d'abord, puisqu'on n'est pas à la télévision, je vais vous dire que c'est du rouge. Ah, je le vois. C'est la première chose qu'on fait quand on prend un verre de vin dans la main pour la dégustation, c'est de le mirer, de regarder s'il est clair, s'il est limpide, ou s'il a du dépôt, ou s'il est trouble, etc. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de le mettre en mouvement dans le verre, mouvement de rotation, pour faire sortir les parfums. Ensuite, le nez. Vous mettez le nez, voilà, j'y vais. Alors, le nez vous dévoilera le côté floral, s'il y en a un, normalement, il y en a un, le cas échéant. Et puis après, le floral peut être plus ou moins vert, plus ou moins oxydé, plus ou moins, je ne sais pas, solide surtout, resté bien dans le nez. Et après, une fois que vous avez bien localisé tous ces odeurs, ces parfums dans votre nez, il y a le goût. Alors là, vous prenez dans votre bouche un petit peu de vin. Ça ne sert à rien de vous saouler. Vous en prenez une petite goutte. Il n'en faut pas beaucoup. Et après, c'est la dégustation. Je vais y aller.
Est-ce que vous arrivez à dire si c'est un vin jeune ?
Oui, je peux dire que c'est un vin jeune. Ouais.
Gagné.
Ouais, non, quand même. Non, je peux dire que c'est un vin jeune qui a des... Ce n'est pas une très grande structure. C'est un vin de soif, mais qui accompagnerait bien un saucisson, un salami, une charcuterie. Pas une viande très, très solide. Pas une viande trop costaude. Ni de la chasse, en tout cas pas. Voilà pour ça. Après, ce qu'il faut faire quand vous le dégustez, il faut inspirer un peu d'air aussi, en même temps que vous le goûtez. Et là, ça l'aère un petit peu, et puis ça vous fixe mieux les parfums dans la bouche. Ça, c'est assez intéressant.
Et excuse-moi, il y a des gens, quand ils dégustent, ils font des tas de glou-glou qui sont un petit peu dégoûtants. On entend des bruits genre comme ça. Ouais. Et ces gens prétendent qu'il faut entrer de l'air et que ça bonifie le vin. Est-ce que ces manières sont opportunes ?
Bon, après, chacun fait comme il entend, mais rentrer de l'air, je pense que c'est une bonne chose. Dans la manière de le faire, fait plus ou moins, suivant avec qui on est, plus ou moins professionnel, plus ou moins fanfaron, plus ou moins, enfin quoi. Ça, c'est secondaire. Ce qu'il faut surtout, c'est...
Donc, ouais. En clair, il y a des gens qui font tout un cinéma, qui font un rituel très compliqué. C'est pas nécessaire.
Pour moi, non, mais bon, encore une fois... Chacun fait comme il l'entend et puis ressent. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ça, qui ne peuvent pas déguster sans ce procédé-là. C'est à eux, ça. Encore une chose, une fois que vous avez avalé, inspiré de l'air par la bouche uniquement, en fermant le nez, pour sentir la fraîcheur du vin. Si vous sentez à ce moment-là un vin qui a été un peu lourd et puis qu'à ce moment-là, vous avez de la fraîcheur, c'est-à-dire un côté un peu mentholé, c'est que c'est un vin de grande qualité. Ça, vous êtes sûr.
Voilà, vous avez bien entendu. J'avoue mon ignorance, je ne le savais pas. Un vin mentholé est un vin prometteur.
Tout à fait, oui.
Très bien. Et ensuite, par exemple, la longueur de ce vin. Commentaire.
Bon, celui-là, il n'est pas très très long. Hein. C'est un vin qui n'a pas des... On calcule ça en caudalie. Il n'y a pas beaucoup de caudalie dans ce vin-là. Caudalie, c'est un terme qui vient de cauda, en latin la queue. Donc qui a une fin... qui dure plus ou moins longtemps. Est-ce que ça se calcule en secondes ?
D'accord. Pour vous, c'est une qualité, là, d'avoir une belle caudalie.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc, un vin doit avoir une certaine longueur. S'il est trop court...
Oui. D'avoir une longueur et d'avoir un retour.
D'accord.
On doit retrouver, au bout d'un temps, le goût du vin.
Est-ce que vous pensez que ce vin qui vient d'être ouvert serait très différent, par exemple, dans une demi-heure ?
Je ne pense pas celui-là, mais certains vins... On s'en rend compte, tout d'un coup, on débouche une bouteille, on dit « Ah tiens, je croyais que ça serait mieux ». Et puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il dit « Mais dis donc, ton vin, c'est quand même pas mal, t'es un peu sévère ». Je dis « Oui, effectivement, on est un peu sévère ». Il s'est amélioré en 20 minutes, une demi-heure.
Donc, en dégustation, on se méfie du premier jugement et en cas de déception, on accorde un sursis au vin.
Voilà, c'est comme dans la vie.
Voilà. Alors, maintenant, le moment de la révélation, est-ce que vous voulez enlever la chemise de la bouteille ?
Écoutez, je peux déjà dire qu'il n'avait pas eu un goût de chaussette. Hein. Ça peut rassurer l'auditeur.
Non, alors il n'a pas pris le goût.
Non,
mais encore. Mais encore.
Alors,
je te laisse dire.
Ouais.
Enfin, tu dis le nom du vigneron ou pas, tu dis le cépage ou pas.
Alors, attendez, il faut que je chausse mes lunettes. Alors, c'est de Claude Sélignie. Un Pinot Noir 2016 de chez Messieurs Schütz et Moser. Donc ça reste sur Genève, Sélignie.
Oui, oui, nous, on s'en tient alors pieusement au vin genevois. Absolument pas question de faire de la publicité pour d'autres vins. Donc on est à Genève, on est pour les circuits courts, on consomme genevois et on boycotte les bistrots qui n'ont pas de vin genevois. N'est-ce pas ?
Normalement, oui.
Voilà, très bien. Voilà. Il faut être ferme. Alors voilà, nous en avons fini avec la chaussette. Et je vais vous donner, comme à chaque émission, une petite citation. C'est une phrase qui a été écrite par l'écrivain américain Jim Harrison, qui est décédé il y a quelques années quand même, je ne sais pas combien au juste, mais c'est un contemporain. Et il a écrit beaucoup de livres et scénarios pour les films, donc il est resté dans l'histoire. Si vous avez sa photo en tête, il a une bonne bobine de bon vivant. Donc le personnage dont vous voyez a priori qui ne crache pas dans son verre. Et il a écrit « L'acte physique, élémentaire, consistant à ouvrir une bouteille de vin, a apporté davantage de bonheur à l'humanité que tous les gouvernants de l'histoire de la planète ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien dit.
Oui, ça c'est bien dit. Je souhaite que tous les gouvernements boivent du vin.
Très bien, pour les ramener aux choses vraies, en somme, parce qu'on parle beaucoup de choses qui sont assez fictives. Et puis là, on entre dans la vraie réalité. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas un fantasme. Alors, merci d'avoir été sur Radio Cité. Merci de nous avoir fait l'honneur d'écouter l'émission Nectar. .ge.ch. Merci à Jean-Charles Crouza qui a bien voulu nous faire part de son expérience. Merci aussi à Olivier Steinmetz qui est derrière sa console et puis qui tape à bon escient sur un nombre effarant de petits boutons. À bientôt.
Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.